bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 10 juin. G7, Moon Jae-in aura des tête-à-tête séparés avec ses homologues britanniques, australiens et de l'Union européenne. Selon le chef du NIS, Séoul et Pyongyang ont récemment eu une communication significative. Covid-19, la Corée du Sud passe le cap des 10 millions de primo-vaccinés. Enfin, Institut Roi Sejong, 26 nouveaux établissements vont ouvrir dans 18 pays. Le président de la République aura des entretiens bilatéraux avec les dirigeants britanniques, australiens et de l'Union européenne en marge du sommet du G7 qui se déroulera du 11 au 13 juin en Cournaille, au Royaume-Uni. La Changwade a annoncé aujourd'hui l'itinéraire supplémentaire de Moon Jae-in dans le cadre de sa tournée européenne d'une semaine. À l'issue de ce rendez-vous, Moon effectuera une visite d'État en Autriche et en Espagne jusqu'à jeudi prochain. À Vienne, lundi et mardi, le locataire de la Maison Bleu rencontrera le président autrichien Alexander Van der Bellen et le chancelier Sebastian Kurz. Il sera aussi reçu par le maire de la capitale, Michael Ludwig, et le président du Conseil national, Wolfgang Sobotka. Moon s'envolera ensuite pour l'Espagne. Il assistera à un dîner offert par le roi Felipe VI et aura un tête-à-tête avec le premier ministre Pedro Sanchez. La visite à la mairie de Madrid ainsi que la rencontre avec des hommes d'affaires dans la capitale et à Barcelone sont également prévues. Un peu plus tôt, concernant un éventuel sommet bilatéral avec le Japon ou trilatéral avec les États-Unis, un haut responsable du bureau présidentiel a laissé ouverte cette éventualité tout en faisant savoir que pour l'heure, aucun calendrier précis n'avait été fixé. Et puis, nouveau coup de fil entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et chinoise. Il a eu lieu hier. Jang Eun-yong et Wang Yi ont alors échangé sur les relations bilatérales entre leurs pays, la question de la péninsule ou encore les dossiers régionaux et internationaux. Les deux hommes s'étaient déjà entretenus par téléphone en février, une semaine après la prise de fonction du sud-coréen. Et en avril, ils se sont rencontrés en personne à Xiamen. Au cours de la conversation téléphonique d'hier, les deux ministres ont affiché leur entente sur l'importance des visites croisées de 11 responsables pour approfondir et développer les relations Séoul-Pékin. Dans la foulée, ils sont convenus de poursuivre leur communication afin d'organiser un nouveau déplacement du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud dès que la situation sanitaire le permettra. Le lancement d'un comité pour le développement des relations futures entre les deux nations ainsi que les programmes en préparation pour célébrer les années des échanges culturels bilatéraux en 2021 et 2022 se sont invités dans leur discussion. Les deux patrons de la diplomatie n'ont pas oublié non plus de reconfirmer l'objectif commun de leur pays, de dénucléariser la péninsule et d'y instaurer une paix durable, avant de se concerter sur les moyens de coopération visant à le réaliser. À propos des défis mondiaux comme le changement climatique, Jang a souhaité que les relations américano-chinoises se développent de manière stable, affirmant que la coopération entre les deux premières puissances de la planète correspond aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble. Le directeur du service du renseignement, le NIS, s'est une nouvelle fois exprimé devant l'Assemblée nationale. À cette occasion, Park Ji-won a annoncé qu'une communication significative avait récemment eu lieu entre les deux Corées. À en croire à plusieurs députés, membres de la commission parlementaire du renseignement, interrogé par celle-ci, le patron des services secrets s'est borné à dire que la communication avait été effectuée avant ou après le sommet sud-coréen-américain tenu le 21 mai à Washington, sans préciser la date ni les canaux utilisés. À propos de la raison pour laquelle Pyongyang ne fait toujours pas part de sa position officielle au résultat de cette entrevue entre Moon et Biden, le chef du NIS a estimé que Kim Jong-un aurait analysé, sans l'annoncer officiellement, le bilan du sommet ainsi que la politique de l'administration Biden envers son pays, et d'ajouter que le dirigeant nord-coréen devrait faire état d'une évaluation agressive sur les discussions des leaders sud-coréens et américains qui ont notamment porté sur le détroit de Taïwan ou sur la résiliation des directives sur les missiles sud-coréens, et ce par le biais de l'assemblée plénière du Parti des travailleurs, sa sœur Kim Yo-jong, ou encore Choi Soon-hee, qui est la première vice-ministre des Affaires étrangères. Selon Park, il s'agirait toutefois d'un simple rite de passage et le régime communiste finirait finalement par décider de renouer le dialogue avec les États-Unis. Et pour fermer ce chapitre, les numéros 2 de la diplomatie sud-coréenne et américaine ont discuté mercredi à Washington des moyens de mettre en œuvre les accords parvenus entre les dirigeants des deux pays lors de leur dernier sommet. D'après l'annonce faite aujourd'hui par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, son premier vice-ministre Choi Jong-un et son homologue américaine Wendy Sherman se sont mis d'accord pour appliquer le plus rapidement possible les résultats du tête-à-tête Moon Biden concernant les vaccins, les technologies de pointe, la coopération mutuelle dans la chaîne d'approvisionnement et celle avec les pays de l'ASEAN et des Amériques centrales et du Nord. Sur le volet nord-coréen, les deux hauts diplomates ont réaffirmé la nécessité de la diplomatie et du dialogue pour réaliser une dénucléarisation complète de la péninsule et l'installation d'une paix permanente et sont convenus de coopérer étroitement pour relancer le dialogue avec Pyongyang.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Suite au suicide d'une sergente de l'armée de l'air victime de harcèlement sexuel, le ministre de la Défense a une nouvelle fois présenté ses excuses auprès de la famille de la victime et des citoyens. So-Hook en a fait part ce matin à l'Assemblée nationale en déclarant qu'il sanctionnerait fermement tous les agresseurs et les responsables qui ont tenté de dissimuler cette affaire. Dans la foulée, il s'est engagé à élaborer des mesures radicales afin de mettre fin aux violences sexuelles dans les casernes. Le ministre a également affirmé qu'il faudrait mettre en œuvre des projets visant à garantir l'indépendance et l'équité des investigations et des procès au sein de l'armée, en minimisant l'influence des commandants sur le processus judiciaire militaire. La Corée du Sud a franchi aujourd'hui le seuil des 10 millions de personnes ayant reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19, 105 jours après le coup d'envoi de la campagne. L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies a précisé que le nombre de ces primo-vaccinés s'était élevé plus exactement à 10 millions 60 000 à 11 heures, soit 19,6% de la population. Dans ce contexte, l'inoculation du vaccin unidose Janssen a débuté aujourd'hui notamment pour les réservistes, les effectifs dits de la défense civile et les salariés dans les métiers de la diplomatie et de la défense nationale, tous âgés de 30 ans ou plus. Quelques 894 000 personnes sont concernées. Elles ont une semaine pour se faire administrer ce sérum développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson dans les cliniques dédiées de proximité. Les seniors de plus de 60 ans peuvent aussi recevoir leur première dose d'AstraZeneca jusqu'au 19 juin. Et à partir de mardi prochain, ce sera cette fois autour du personnel des fonctions et services dits essentiels de moins de 30 ans, ainsi que des enseignants de maternelle, de crèche et des premières et deuxièmes années des écoles primaires, eux aussi avec le produit du laboratoire américain Pfizer. Les réservations pour les 200 000 premiers candidats sont déjà closes depuis hier. Du côté des nouveaux cas positifs à l'épidémie, le bilan quotidien de ce jeudi en fait état de 611. Le virus et ses variants d'origine étrangère continuent de se propager dans tout le pays, de quoi inquiéter les autorités sanitaires. Le gouvernement doit annoncer demain de nouvelles règles de distanciation sociale à appliquer dès la semaine prochaine. La courbe des infections ne s'inversant toujours pas, il est possible que soient maintenues les mesures actuellement en vigueur, à savoir le niveau 2 à Séoul et dans sa couronne, et le niveau 1,5 dans les autres régions, respectivement les deuxièmes et troisièmes plus élevés sur une échelle qui en compte 5. Les constructeurs navals sud-coréens ont regagné leur première place le mois dernier en termes de nouvelles commandes reçues, devançant ainsi la Chine. D'après Clarkson Research, les commandes mondiales ont atteint en mai 1,27 million de tonnes brutes compensées, TBC, soit environ 60 navires, dont 710 000 TBC ou 56% de l'ensemble pour les entreprises chinoises, 440 000 pour les sud-coréennes et 110 000 pour les japonaises. Cependant, ces chiffres ne tiennent pas compte des contrats décrochés fin mai par les entreprises sud-coréennes. Sur la base de ces derniers résultats, la Corée du Sud devance la Chine. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'Empire du Milieu a dépassé de peu le pays du matin clair avec 8,9 millions de TBC contre 8,3 millions. Pour la Corée du Sud, il s'agit d'un bond spectaculaire de 662% sur un an, soit le plus haut niveau depuis la même période de 2008. Et pour terminer, l'Institut Roi Sejong, l'équivalent sud-coréen de l'Alliance française, a retenu 26 nouveaux sites dans 18 pays afin d'accueillir ces établissements dont la mission est de faire connaître la langue et la culture coréenne à l'étranger. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Culture lors de sa visite au site de la fondation de l'Institut Roi Sejong. Cette année, un total de 85 organismes dans 43 pays avaient présenté leur candidature. En particulier, 5 nations accueilleront pour la première fois l'Institut Roi Sejong, le Maroc, la Tanzanie, la Bolivie, la Slovénie et le Népal. En outre, 5 nouveaux instituts seront ouverts respectivement au Vietnam, qui a récemment désigné le coréen comme une première langue étrangère, et en Ouzbékistan, qui en a fait une langue étrangère officielle dans ses écoles militaires. Le ministère de la Culture et la fondation de l'Institut Roi Sejong envisagent de porter le nombre total de ces établissements dans le monde à 270 d'ici l'an prochain. Dans cette optique, ils vont élargir l'envoi d'enseignants sur mesure en fonction de la situation des pays concernés, ainsi que l'éducation des formateurs sur place. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.